France Musique.
France Musique. Vous allez l'adorer.
C'était hier à Toulouse une charte sur le développement durable présentée à la ministre de la Culture lors des états généraux des festivals avec en objectif mieux accompagner ces manifestations artistiques pour qu'elles respectent davantage l'environnement. Alors, à quoi cette charte exactement va-t-elle servir et au-delà, quels sont les chantiers à mettre en œuvre sur ces questions dans le monde du spectacle? On est en ligne ce matin avec David Hirle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant sur les questions d'énergie et du climat dans le secteur culturel. D'ailleurs, vous participez toute la journée à Paris à la Maison des Métallos à des rencontres nationales sur la transformation écologique des métiers du spectacle à l'initiative de l'association Arviva. Et puis, vous venez de publier, de co-signer Décarboner la culture paru aux presses universitaires de Grenoble. D'abord, en quelques mots pour résumer cette charte présentée hier à Roselyne Bachelot, que dit-elle ?
Elle définit plusieurs engagements. C'est une mise à jour d'une charte qui existait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle définit des ambitions fortes, un peu nouvelles, notamment sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire des enjeux de mobilité. Et elle définit des objectifs à cibler pour les festivals, histoire de s'engager dans une logique de d'éco-responsabilité et de durabilité. C'est un outil assez puissant, je trouve, parce que ces objectifs sont clairs, sont bien délimités. Ils sont assez ambitieux et puis il y a une forme d'engagement nécessaire pour les festivals puisque les festivals doivent s'engager sur au moins 3 de ces objectifs dans les 3 prochaines années. On est vraiment sur un outil de transformation puissant dont on avait besoin et c'est très chouette que le ministère du coup se soit emparé de cette question-là de cette façon-là.
Et puis ce n'est pas qu'un vœu pieux, elle est opposable comme vous le disiez au festival, s'ils ne s'y conforment pas, ils ne bénéficieront plus du soutien de l'État, ça c'est nouveau.
Ouais, c'est complètement nouveau, c'était pas gagné, il fallait sans doute aussi y aller un peu doucement parce que c'est des choses qui doivent se co-construire avec le secteur. C'est pas étonnant que ça arrive dans les festivals en premier parce que les festivals ont toujours été un peu pionniers sur les questions de développement durable. Ça prend aussi un peu exemple à des choses qui se passent ailleurs, hein, dans le cinéma par exemple, avec le CNC qui a engagé aussi un plan de transformation assez intéressant sur ces questions de soutenabilité. Donc oui, c'est bien parce qu'enfin on passe à quelque chose qui devient un peu opposable et on a besoin aujourd'hui de sortir des chartes, des guides de bonnes pratiques pour rentrer dans des transformations concrètes.
Et cette charte, David Hirle, soutient aussi des petits festivals, et c'est lié à ce que vous évoquiez, la mobilité. Pourquoi est-il important de réduire les jauges des festivals et d'aller vers des petits festivals, selon vous ?
L'important c'est d'adapter en fait la jauge de son festival aux ressources d'un territoire, que ce soit dans le volet production, mais aussi aux infrastructures qui sont disponibles ou qui le seront dans les prochaines années. Et c'est vrai que pour les petits festivals, c'est plus simple de mettre en place et d'organiser de la mobilité douce, de la proximité avec des publics. Et en fait, on le sait dans les études, elles le disent toutes, 80 ou 90% de l'impact carbone d'un festival, c'est la mobilité des publics. Donc en fait, c'est le gros sujet qui est souvent un angle mort du travail. Qui est prioritaire si on veut essayer de respecter la trajectoire de l'accord de Paris, qui, je le rappelle, consiste à baisser nos émissions d'au moins 80% d'ici 2050.
Donc il faut réduire la mobilité des spectateurs, moins de spectateurs qui viennent de loin, qui vont au festival d'Aix ou de Montpellier par exemple, mais il y a aussi des artistes qui circulent beaucoup, d'ailleurs ils le disent régulièrement depuis le début de la pandémie dans cette émission, le matin il y a eu une prise de conscience, peut-être même un électrochoc sur ces questions. Est-ce que vous voyez les lignes bouger? Je pense notamment aux grandes tournées d'orchestre qui se font en avion.
Ouais, on va pas se mentir, il y a aussi des résistances, mais c'est vrai que depuis le déclenchement de la crise du coronavirus, ça a eu cette vertu du pas de côté, qui fait que il y a une effervescence et à tous les niveaux, les artistes, certains programmateurs, certaines institutions. Donc ça, c'est chouette à voir. Et alors sur la mobilité des artistes, ce qui est intéressant, c'est dans la culture, il y a une forme de spécificité. On a besoin que les idées circulent, on a besoin que l'art circule, on a besoin d'échanges et d'échanges humains aussi. Donc il y a des questions un peu particulières à se poser sur la mobilité des artistes, mais on voit enfin effectivement des questions un peu structurantes qui se posent. Comment, par exemple, la coopération entre programmateurs permet d'organiser des tournées mutualisées, et ça a une vertu écologique, mais ça a aussi une vertu en termes de bien-être pour des équipes artistiques qui sont parfois sursollicitées, épuisées, avec une forme de burn-out. Il y a vraiment une forme d'hypermobilité dans la culture qui était important de faire atterrir et de commencer à réfléchir comment.
Alors on pourrait se dire que le développement du numérique est une bonne nouvelle pour réduire cette circulation physique, mais non, vous le rappelez dans votre livre, le numérique est très polluant.
Ouais, c'est, alors c'est un quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans le livre. Alors c'est un petit regret d'ailleurs que j'ai sur la charte proposée par le ministère, c'est que le numérique n'apparaît pas. Or voilà, aujourd'hui en France, on est un peu pionnier sur l'analyse d'impact environnemental du numérique. On commence à avoir les outils pour le faire et on se rend compte que notamment à l'échelle de la diffusion de spectacles, ça va pas être très soutenable. Voilà, il est important d'imaginer une forme d'atterrissage aussi de cet impact-là. Alors autant c'est un super outil professionnel pour réseauter, pour peut-être garder du contact longue distance avec des artistes qu'on ne pourra pas aller voir du coup très souvent, ou moins souvent en tout cas, pour limiter nos déplacements. Mais il faut bien prendre conscience qu'il y a une énorme matérialité du numérique, des impacts environnementaux majeurs, et puis pas que environnementaux, et qu'il faut les prendre en compte. Jusqu'ici, ce n'est pas vraiment fait. On a la chance depuis quelques jours d'avoir une loi sur l'empreinte environnementale du numérique qui a été promulguée, c'était il y a 15 jours. Voilà, c'est un outil sur lequel il faudrait maintenant pouvoir s'appuyer pour interroger les impacts environnementaux du numérique et les atténuer, les faire ralentir, parce que là on voit qu'on est sur une explosion des impacts. C'est pratiquement le poste qui grandit le plus dans les impacts de la culture en général.
Merci David Hirle, consultant sur ces questions d'énergie, de climat sur le secteur culturel. Vous participez, je le rappelle, toute la journée à Paris à la Maison des Métallos à des journées de rencontres nationales sur la transformation écologique des métiers du spectacle, et vous venez de co-signer un livre, Décarboner la culture, aux presses universitaires de Grenoble. Vous expliquez beaucoup de choses, notamment pourquoi les festivals qui plantent des arbres pour chaque festivalier, c'est bidon selon vous, on le comprendra en lisant le livre. Merci beaucoup.
Merci Jean-Baptiste.
À réécouter sur francemusique.fr.